Histoire des îles Marquises, de Akakayo Tehenua Enana, de Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, Kaohanu et bienvenue dans cette 24e émission.
Édition 2023.
La fois passée, nous avions assisté à la première rencontre de porteurs avec Kiatonui. Nous avions aussi assisté à l'attaque des Hapa'a, dont 5 guerriers avaient été tués et transportés à Taiohae. Dans cette émission, nous verrons porteurs se rendre dans la vallée Me'ao afin de s'assurer que les 5 morts rapportés des combats ne sont pas consommés. Nous verrons aussi comment, sous la direction de Kiatonui, 4000 Teii et leurs alliés construisent le camp de porteurs à Hakapehi. Le 30 octobre 1813, porteurs se rend chez Kiatonui dans la vallée Me'ao, afin de s'assurer que les dépouilles des victimes de la veille ne terminent pas en repas cannibale. À son arrivée, il trouve une foule de femmes en larmes, avec Tahia Taioa, la femme de Kiatonui, qui lui explique leur crainte de périr par la main d'hommes si puissants, c'est-à-dire la main de porteurs dont ils ont vu la force lors du combat avec les Hapa. Porteurs les rassure en rappelant que si les Hapa avaient voulu la paix, il n'y aurait pas eu de guerre et pas de mort. Tahia Taioa traduit les propos de porteurs et le calme revient dans la famille. Voulant constater des visous le comportement des Enana en ces circonstances, porteurs se rend sur place. C'est là que porteur apprend que Kiatonui est occupé avec les cadavres des ennemis sur un tohua. Peut-être s'agit-il du grand tohua Kanino Hawaiki,
ou bien de Piki Ohotohua o Mauia, ou tout simplement Mauia, sur lequel est implantée la mission catholique de nos jours.
Et en chemin, il croise Kiatonui qui, tout en marchant, mange de la popoye et du poisson cru. La troupe prend alors la direction du Tohua, d'où proviennent grondements de tambours et chants de guerre, et vers lequel se dirigent de nombreux guerriers en armes, portant des offrandes de fruits. En approchant, porteurs comptent près de 600 personnes, entourant le corps de 4 victimes encore attachées aux perches de transport, une des victimes ayant déjà été récupérée par sa famille. À la vue de porteurs, la confusion s'empare des insulaires qui dissimulent les corps dans les buissons voisins. Porteur leur demande de les remettre en place et leur explique sa crainte de les voir se régaler des victimes. Kiatonui et son grand prêtre, Tauataa, lui répliquent qu'ils ont besoin des corps, non pour les manger, mais pour terminer leur cérémonie de victoire, sans lesquelles ils seraient la risée de leurs ennemis. Porteur consent à leur laisser 2 corps, à condition que quelqu'un de son choix assiste aux cérémonies d'enterrement des 2 corps, et demande qu'on rapporte les 2 autres corps au campement où une fosse a déjà été creusée afin de les recevoir. En réalité, peu de temps avant son départ, à l'occasion de sa visite de Sitapu, dont nous parlerons un peu plus loin, porteur découvrira les 2 corps dans la pirogue mortuaire du grand prêtre Taua, tué lors des combats avec les Hapa'a. Dans cette même pirogue, parmi d'autres cadavres de guerriers, se trouvent aussi les 2 Taipi rapportés après leur défaite quelques jours plus tard. De cela aussi, nous en reparlerons. Cet accord convenu entre porteur et Tauataa, la cérémonie reprend, dirigée par ce même grand prêtre, et que nous décrit porteur. Tauataa agite une tige de palmier sèche à laquelle est attachée une touffe de cheveux humains, puis par 3 fois lance une incantation à laquelle répond une acclamation poussée par les guerriers avec un ensemble parfait, en même temps qu'ils frappent avec force dans leurs mains. C'est le célèbre Hono, une acclamation poussée à l'unisson et souvent entendue de nos jours, du style Tanawa et Wakaki. Hui, hui, huia. Puis par 3 fois, les guerriers, accompagnés des tambours, exécutent des chants énergiques autour des victimes, Et la cérémonie s'achève avec la venue de Tawata près de Porter afin de lui demander si tout est bien. « Meamotaki », nous dit Porter. Devant la satisfaction de Porter, le grand prêtre est lui aussi satisfait. C'est ce même mot de « motaki » signifiant « bien » que Melville écrira maintes fois au cours de son roman « Taipi » pour dire justement que les Taipi dont il avait si peur sont finalement des gens gentils. « Taipi motaki ». Il est à noter que ce mot de « motaki » n'est plus utilisé désormais qu'il est remplacé par le mot « meitai ». On amène alors à Porter un hapa'a arrivé le matin même qui, une fois rassuré par une poignée de main de l'Américain, explique combien ses compatriotes sont inquiets et qu'ils ne désirent plus que la paix. Pour montrer sa force, Porter fait une démonstration de tir avec un mousquet et demande aux hommes de Kiatonui d'essayer d'en faire autant avec leurs fronts des javelots. Mais, comprenant l'humour du message, ils ne bougent pas. Et le hapa'a est impressionné par la justesse et la force du tir de Porter. Il réitère son offre de paix et Porter lui confie alors une lance sur laquelle est attaché un mouchoir blanc, lui expliquant que le porteur de ce drapeau sera toujours respecté. Encore un geste ancestral que cette histoire nous permet de redécouvrir. À son retour au camp, Porter trouve une ample provision de porc, coco, banane, maïs, taro, canne à sucre et kava provenant des tribus de Taiohae et aussi du pillage de la vallée Hapa'a. Le 1er novembre, le corps des deux victimes restantes sont apportés au camp, mais les Enana qui les ont transportés refusent de les toucher. D'après Porter, c'est une preuve qu'ils ne sont pas cannibales, mais il s'agit plutôt d'une contrainte rituelle, la crainte de perdre son mana en touchant un objet profané. Finalement, après avoir détaché à l'aide d'un bâton la plus grande partie des bandelettes entourant les corps, ces derniers sont poussés dans une fosse rapidement recouverte de terre. Ils sont donc enterrés à Hakapehi. Cette crainte de toucher un corps a perduré jusqu'aux années 1940, époque à laquelle, dans ses mémoires, Benoît Falchetto explique que, parce que personne ne voulait le faire, on était venu le chercher pour descendre dans la tombe d'un défunt ancien, mais qu'il avait dû, pour cela, y descendre nu et devoir se laver entièrement avant de remettre ses vêtements. Un peu plus tard, Porter reçoit la visite de Kiatonui accompagné de Moetei, appelé aussi Mawateii ou Teii Moea, son gendre, et chef du clan Naiki de la tribu Hapa'a qui vient faire la paix. Porter lui explique que leur défaite est due à leur premier refus de paix et qu'ils doivent payer pour ça. Lui ne voulait pas la guerre. Il demande alors des porcs pour nourrir les Américains une fois par semaine et propose même de les payer en cerceaux de fer et en outils. Après avoir serré la main de Porter, Moetei lui fait remarquer le manque de confort des tentes abritant les hommes, sautant sur l'occasion. Kiatonui présent suggère alors que toutes les tribus alliées de Porter, à commencer par les Teii de Taiohae, construiront une maison pour abriter ces hommes. Dans l'après-midi, tous les autres chefs Hapa'a viennent au camp et se conforment aux décisions de Porter.
Yeah.
Le 2 novembre, les chefs des autres tribus de l'île viennent à Taiohae pour se conformer à l'accord de paix. Seules, les tribus de l'alliance Taipi ne se présentent pas. Ce sont les tribus qui habitent Vai'i et Anaho. N'ayant jamais été vaincus, leurs grands prêtres sont sûrs de leur invincibilité et ne veulent s'associer ni à Porteur ni à Kiatonui qu'ils méprisent. Bien que faisant partie de l'alliance Taipi, Timo Taipi, chef des Teava'ani de Ho'oumi, et allié à Kiatonui par sa sœur aînée Hinatei'ani, ou Tehono Tutu'aki, épouse de Tuitou'a, premier fils de Kiatonui, Timo Taipi donc s'est rangé du côté du chef Teihi avec Porteur. Déjà en froid avec les Taipi de Vai'i, il est désormais considéré par eux comme lâche, dégénéré et indigne de l'alliance. En remerciement de leur accord de paix, Porteur offre des harpons au chef qui apprécie le présent. L'autre cadeau le plus communément offert est le cerceau de tonneau dont Porteur semble posséder une quantité infinie. Les Enana se présentent avec un bout d'écorce de Burao, en marquisien Hao, et l'écorce de Burao se dit Ki'ihao, d'une vingtaine de centimètres de long correspondant à la longueur d'un morceau de fer qu'ils réclament comme leur dû. Ces portions de métal leur servent à confectionner des lames d'herminette. Après avoir mis en pièces le cerceau, chacun repart avec sa part sans que jamais il n'y ait d'injustice ou de querelle. Porteur est impressionné par l'harmonie qui règne entre les naturels, comme il les appelle, un peu comme dans une famille, sous l'autorité des chefs bienveillants. Il ajoute aussi ne jamais avoir vu quelqu'un être puni pour un acte quelconque, et il se demande même si les délits sont punis. Le 3 novembre, comme promis, les Teihi, les Hapa'a et les Teava'ani commencent la construction des habitations à Akape. Ils sont plus de 4000 ayant apporté tout le matériel nécessaire. Porteur a fait délimiter le plan de construction à l'aide des barils à eau alignés en demi-cercle. Avant la nuit, les Enana achèvent une maison d'habitation pour Porteur, une autre pour les officiers, un magasin pour les voiles, un atelier pour les tonneliers, un abri pour les malades, une boulangerie, un corps de garde et un abri pour la sentinelle en faction de jour et de nuit. Chaque corps de bâtiment est relié aux autres par une palissade de bois de 12 pieds de long par 4 de hauteur, c'est-à-dire 3,50 m de long sur 1,20 m de hauteur. Les hommes sont remerciés par une distribution de harpons et de cerceaux de fer. Dans son journal publié aux éditions Hairepo de Tahiti et intitulé Nukuhiva 1813-1814, Porteur a lui-même exécuté un certain nombre d'illustrations précieuses parmi lesquelles il en est une, dessinée d'un peu au large et dans laquelle, outre ces navires à l'ancre, on aperçoit le camp dont la disposition correspond exactement à ce que l'on vient d'entendre. Porteur continue de s'étonner de la bonne entente qui règne entre tous les insulaires et leur efficacité dans le travail alors que toute autorité semble absente. Pas plus que les autres étrangers venus avant ou après lui, il n'a saisi qu'une telle mobilisation de main-d'œuvre eût été impossible sans l'autorité discrète mais établie aux yeux de tous du grand Haka'ikitapu et de surcroît Tau'a, grand prêtre, Kete Kiatonui, investi d'un vrai pouvoir exécutif provenant de sa lignée de fils aînés, héritier direct de plusieurs ancêtres divinisés. Tandis que les naturels sont occupés à la construction de ce que Porteur appelle le village, ces hommes remettent la frégate Essex en état. Une fois le matériel retiré, la poudre et les provisions disposées sur les prises, toutes les ouvertures sont obstruées et le navire est fumigé au charbon de bois afin d'exterminer les rats du bord. On comptera jusqu'à 1500 victimes. Les rats, bien sûr. Le calfatage et autres réparations vont bon train. Le mât de hune, en état de pourrissement avancé, est remplacé par un mât de rechange. Constatant que l'huile de lin lui manque pour repeindre le vaisseau, Porteur fait capturer deux requins, mais l'huile de leur foie ne convient pas. Pas plus que celle de quelques dauphins globicéphales, capturés eux aussi. Finalement, il trouve un peu d'huile de cachalot sur une de ses prises avec laquelle il ne peut faire effectuer que la peinture extérieure de la frégate. Plus tard, il découvrira que la noix de Bankul, Ama, produit une huile permettant d'effectuer cette opération. Au moment du carénage, on remarque le mauvais état de certaines plaques de cuivre recouvrant la coque. Elles sont remplacées par des neuves provenant des prises. Constatant alors que la coque est recouverte de bernacles et d'algues pouvant ralentir le navire, Porteur fait demander à des Enana de plonger pour les retirer, ce qu'ils font à l'aide de coques de noix de coco. Encore un élément qui prouve que si porteur demande aux Enana de plonger, c'est que les marins américains ou anglais ne savent ni plonger ni nager. Le 5 novembre, porteur constate que Timotaipi n'a pas fait expédier son lot de vivres et lui envoie un messager pour obtenir des explications. Le 6 novembre, à son retour, le messager explique que les Hapa'a lui ont refusé le passage par terre, mais qu'il fera parvenir son dû par mer le plus vite possible. Porteur soupçonne une autre version car il sait bien que les Hapa'a sont ses alliés maintenant. Il envoie un message à ces derniers qui, bien sûr, démentent avoir agi contre Timotaipi et lui font parvenir un nouvel envoi de vivres afin de lui prouver leur bonne foi. Finalement, le 7 novembre, Timotaipi aborde Hakapehi à la tête de 6 pirogues chargées de porc et de fruits. Il renouvelle sa version des faits, mais Porteur apprend bientôt que ce sont les Taipi de Vaihi qui ont menacé Timotaipi de représailles. Ce dernier demande alors sa protection à Porteur et l'implore d'échanger son nom avec lui. Avec lui, Timotaipi, qui avait, 15 ans plus tôt, échangé son nom avec le pasteur Crook, Kuruka. Mais Porteur avait déjà échangé le nom de Porteur avec Kiatonui. Il propose alors à Timotaipi d'échanger, avec lui, son prénom, David, qui devient alors Tevi, puisqu'en anglais, David se prononce David. Donc, entre David et Tevi, on voit bien la ressemblance. Selon la coutume, Porteur pourra aussi disposer de son épouse en échange de colliers de perles de verre. Cette situation continue d'étonner Porteur, selon lequel Timotaipi est un des plus beaux hommes de l'île et se comporte en époux très tendre avec son épouse. Ce même jour, Porteur fait envoyer un messager aux Taipi de Vaihi, leur demandant de préciser leurs intentions à son égard. Chers amis, nous voici arrivés à un tournant du séjour de Porteur à Taiohae. Ne manquez pas la prochaine émission au cours de laquelle nous apprendrons comment les Taipi de Vaihi rejettent l'autorité de Porteur et comment cette situation conduira à une guerre en 2 épisodes très différents. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Te'eo et sur mon site internet te'eo.com. Et merci à Kaiha pour sa chanson Tuttukina, un hymne à la musique des tambours Pahu et des trompes marines Putoka qui font trembler le sol des places publiques, les Tohuwakoika. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, à Pai, au Oahu.